ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour à tous et bienvenue sur le site de l'église protestante de Blegny. Nous nous retrouvons pour notre 12e culte en confinement. J'espère que vous vous portez tous bien. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité. Je vous invite à ouvrir la Bible à la première page. Genèse 1 et les deux premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Refermons notre Bible jusqu'à la dernière page, Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'Esprit de Dieu est au début, et même avant la fondation du monde, et il est là, à la fin des temps, et même après. Dieu est éternel. Il est dit plusieurs fois dans la Bible qu'il est d'éternité en éternité, comme s'il y avait plusieurs éternités. Si l'éternité est sans fin, qu'est-ce qu'une éternité d'éternité? La réponse, c'est Dieu, notre Dieu. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh, ce n'est pas que le Fils a un commencement de rien, une fin définitive. Il est de tout temps. Il n'y a que sur terre que Jésus, fait homme, eut des limites. Le Fils est Dieu. De même, l'Esprit Saint, nous l'avons vu, est déjà dès le début et même avant, et sera de toute éternité. Le Saint-Esprit est Dieu. Ne le limitons pas juste à la Pentecôte.
Yes.
Seigneur, en ces temps difficiles, nous en remettons à toi, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous apportons devant ton trône de grâce tous ceux qui se battent contre le virus, aussi bien dans leur corps, pour les malades que dans les hôpitaux, pour le personnel soignant. Donne toute sagesse à nos dirigeants pour l'organisation du déconfinement. Et toute écoute est mise en pratique pour les citoyens dont nous faisons partie. Visite notre pays. Amen.
Que Seigneur soit les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en
Avant de passer la parole à Daniel, je vous rappelle notre rendez-vous de prière à la maison, tous les mardis, entre 19 et 19h30. Et notre synergie avec les communautés de Herstal-Scherath, n'hésitez pas à visiter leur site. Jésus a dit, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit a donc deux missions importantes. Consoler et enseigner ceux qui sont en Jésus-Christ et convaincre le monde que Dieu est jugement et justice. Prions. Père aimant, donne vraiment à Daniel le message qui vient de ton cœur, pour notre propre édification, et visite-nous par ta parole qui est la vérité. Amen.
Chers amis, bien le bonjour. Je suis heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. En ce dimanche de Pentecôte, J'aurais pu vous parler des origines de la Pentecôte, qui est pour les Juifs, selon la loi de Moïse, la fête de la moisson. Mais non. En fait, je veux aujourd'hui revenir à la première Pentecôte chrétienne et regarder les effets positifs que cela a provoqués sur les disciples de Jésus, ainsi que sur les suiveurs de Jésus. Ce groupe de personnes ont connu un confinement volontaire de 10 jours, attendant la promesse que Jésus leur avait faite, la venue de l'Esprit-Saint. Mais tout d'abord, un rappel de ce que Jésus annonçait de son vivant. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 18. Jésus disait « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jésus annonce que son départ est proche. Il va mourir et revenir à la vie ensuite, et par après quitter cette terre et repartir près de son Père le jour de l'Ascension. Mais il ne veut pas que nous soyons dans la peine. Il va nous envoyer quelqu'un pour nous consoler. Et cette personne, car c'est une personne, c'est l'Esprit-Saint. Car un des rôles du Saint-Esprit est de nous consoler. Il savait que cette séparation d'avec lui rendrait les disciples tristes et malheureux. Aujourd'hui, si l'Esprit-Saint de Dieu n'était pas en nous, nous ne goûterions pas la présence de Dieu, si précieuse à nos cœurs, et nous serions malheureux et inconsolables en tant que chrétiens. Ensuite, autre caractéristique du Saint-Esprit, il est vérité. Jésus disait « Je suis la vérité ». Qui à part le Saint-Esprit peut nous indiquer la vérité? Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus est clair, il nous confirme que l'Esprit-Saint est vérité. Il dit ceci « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Si nous sommes dans la vérité, et nous pouvons l'affirmer, nous connaissons la vérité, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit loin du chemin de l'erreur, car Jésus nous enseigne au travers de lui. C'est l'Esprit-Saint qui œuvre dans le monde après le départ de Jésus. Voilà ce que Jésus enseignait à ses disciples pendant qu'il était avec eux. Mais qui sont ces disciples? Pour certains, c'était de simples pêcheurs, un collecteur d'impôts, un zélote membre d'un mouvement nationaliste juif, et d'autres venant d'horizons différents. De braves gens, des râleurs, des fois incrédules, d'autres fois remplis d'audace, prêts à vouloir faire tomber le feu du ciel à qui ne recevait pas le message de Jésus, plein d'enthousiasme ou craintif. Et puis vint le moment de la crucifixion de Jésus, leur fuite, par peur des représailles, le reniement de Pierre. Ensuite, remplis de crainte, ils s'enferment tous ensemble dans leur maison. Car Jésus est mort, ils ne savent plus trop quoi faire. Ensuite, quelques femmes leur annoncent que Jésus est ressuscité. L'incrédulité et le doute s'emparent encore davantage de ces pauvres disciples. Et finalement, Jésus se présente à eux, il est bien vivant. Mais il ne restera pas avec eux. Ils sont de nouveau enseignés intensément par Jésus, il les prépare à leur ministère futur et bien sûr à son départ. Nous remarquons de prime abord, ce ne sont pas des hommes des plus remarquables que Jésus a choisis. Ne nous ressemble-t-il pas beaucoup? Ainsi, nous ne voulons pas nous permettre de les juger ou de les critiquer. Nous avons beaucoup de points communs avec les disciples. Mais Jésus avait un plan bien précis pour eux, comme il a un plan pour nous, pour son Église. Avançons dans notre réflexion. Nous nous retrouvons maintenant 40 jours après la résurrection de Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les voilà réunis ensemble avec Jésus. Il va être enlevé au ciel. Et Jésus réitère sa promesse. Il va leur envoyer le Saint-Esprit. C'est une promesse qu'il a faite et il tiendra cette promesse. Il leur promet une puissance venant sur eux. Je suis persuadé qu'à ce moment, ils ne comprennent pas ce que cela veut dire, cette puissance, ni ce qu'ils vont recevoir. C'est le brouillard complet pour eux. Et puis, plus rien. Jésus disparaît à leurs yeux. Les voilà bien seuls pour le moment. Mais j'aime beaucoup leur attitude après le départ de Jésus. Ils auraient pu rester à se lamenter, être découragés, être tristes. Non, il y a en eux une volonté, une foi nouvelle, semble-t-il, qui les anime. Lisons toujours dans le livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 12 à 14. « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Ils prennent la décision de retourner dans leur lieu habituel de réunion, la chambre haute. Les disciples et les autres amis de Jésus, ainsi que les femmes qui ont suivi Jésus, dont la mère de Jésus et ses frères, il nous est dit qu'ils étaient environ 120. Et que font-ils? Ils se mettent à la prière. C'est une attitude à encourager quand on est dans le brouillard, ou quand des décisions importantes sont à prendre. Ils savaient que quelque chose allait se produire. Le Saint-Esprit allait venir. Comment allait-il venir? Ils ne savaient pas. Mais ils attendaient sa venue. Ils étaient prêts. Je fais ici une parenthèse nous concernant, nous, chrétiens. Attendons-nous les promesses de Dieu? Tenons-nous prêts afin de recevoir la bénédiction de Dieu? C'est la question que je veux nous poser ce matin. Je referme cette parenthèse. Remarquons que les disciples et leur entourage ne se sont pas contentés d'un petit moment de prière. Ils sont assidus et persévérants. Ils étaient confinés volontairement dans cette chambre haute, assidus, assiégeant le trône de la grâce avec insistance. Ils désiraient cette bénédiction. Chers amis, frères et sœurs, sommes-nous prêts à faire de même, à combattre dans la prière, afin que l'Esprit Saint nous guide? Mais il est un fait certain, pendant 10 jours, c'est ce qui nous sépare du jour de l'Ascension à la Pentecôte, ils ont continué à prier, réclamant l'Esprit que Jésus leur avait promis de leur envoyer. Et ce qui devait arriver, arriva. Le Saint-Esprit est venu, sous une forme particulière, je dirais unique dans l'histoire de l'Église. Il nous est parlé de langue de feu. Il fallait qu'il vienne d'une manière forte, afin bien sûr de déstabiliser tous les détracteurs du christianisme naissant. Le livre des Actes au chapitre 2, les versets 1 à 4, nous raconte comment l'Esprit-Saint est descendu. Écoutez ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je dis bien souvent, quand j'ai l'occasion de prêcher, Dieu ne fait pas du spectacle. Il agit comme bon lui semble dans un but bien précis. Ici, il est descendu d'une manière puissante, distribuant des dons de langue. Car en cette fête de Pentecôte, il y avait à Jérusalem des touristes, appelons-les ainsi, venant de plusieurs régions. Et ils avaient besoin d'entendre le message de Dieu d'une manière bien précise, dans leur propre langue. Je tiens à préciser que l'Esprit-Saint ne se manifeste plus nécessairement de cette manière, sauf si Dieu le désire. Nous ne connaissons pas ses plans, bien entendu. Mais je veux en venir à ce qui était mon propos en débutant cette méditation. Les effets de la venue de l'Esprit-Saint sur les disciples de Jésus. Nous avons vu que ce n'étaient pas des foudres de guerre. Ils étaient peureux, manquant d'assurance, remplis de doutes. Et, aux surprises, suite à la réaction de la foule étonnée par ce qui vient d'arriver, nous voyons les disciples se présentant face à cette même foule, et Pierre, prenant la parole, nous livre un message d'évangélisation improvisé, sans aucune note, mais sous la direction de l'Esprit-Saint. Il nous délivre un message puissant. Je vous invite à lire ce passage où nous voyons l'apôtre Pierre délivrer ce message puissant dans le livre des Actes au chapitre 2. Et à la fin de ce message, les auditeurs sont confondus par la puissance de Dieu et disent, après avoir entendu ce discours, nous trouvons cela au verset 37 du chapitre 2, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est la première d'une série de réunions d'évangélisation dans le monde. Tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Que pouvons-nous dire? Le Saint-Esprit est une puissance, chers amis. Jésus n'avait pas menti. Vous recevrez une puissance, disait-il. D'hommes craintifs, ses disciples sont prêts maintenant à affronter des foules, des autorités politiques et religieuses, bien souvent hostiles, et opposés à leur égard. C'est cela l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et nous voyons que la puissance du Saint-Esprit travaille avec les disciples. Mais cet Esprit-Saint qui convainc de péché et amène à la conversion la foule qui écoute, oui, Jésus avait bien dit, vous recevrez une puissance. Et ce même Esprit est encore à l'œuvre parmi nous en ce 21e siècle. Il est à l'œuvre pour accomplir une nouvelle naissance envers celui qui reçoit Jésus. Et je lance le même appel que l'apôtre Pierre à vous, chers auditeurs, qui cherchez la vérité. Laissez le Saint-Esprit transformer votre vie. Et vous, chers amis chrétiens, qui êtes craintifs, le Saint-Esprit veut vous remplir de force et de puissance. Paul dira dans Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu a rempli de force les disciples, afin de s'adresser à toute une population découvrant le message de l'Évangile, leur donnant un esprit d'amour. Car l'amour de Dieu est venu en eux. Alors, comme je le disais en début de mes propos, certains disciples étaient prêts à répondre par la violence si l'on n'acceptait pas le message de Jésus en faisant descendre le feu du ciel. Maintenant, ils sont remplis d'amour. Et beaucoup ont payé de leur vie en annonçant l'Évangile. L'Esprit-Saint les a rendus sages. Ils étaient soumis à sa volonté. Je pourrais encore continuer démontrant tout ce que la venue de l'Esprit-Saint a pu faire comme transformation dans la vie de ses disciples, auparavant timorés et craintifs. Chers amis, frères et sœurs, ce même Esprit agit encore aujourd'hui dans ce monde. Nous qui avons reçu cette nouvelle vie en Jésus, nous avons cet Esprit en nous, voulant agir en nous et au travers de nous, afin que nous propagions l'Évangile à nos contemporains, afin qu'ils connaissent la délivrance du péché et de toutes choses mauvaises polluant notre monde. Cette puissance est en nous, frères et sœurs. Ne la négligeons pas, ne la laissons pas dormir. Et si cela est le cas, l'apôtre Paul nous lance le même appel qu'il avait lancé à Timothée. Ranime le don qui est en toi. Ne laissons pas dormir cette puissance, mais utilisons-la à bon escient, afin que notre monde connaisse la vraie vie que Dieu veut nous apporter. Revivons, chers amis, frères et sœurs, une nouvelle fête de Pentecôte. Faisons connaître à notre entourage l'amour et la vie que Jésus nous propose d'avoir. Comme l'apôtre Paul le disait, nous avons en nous une puissance, n'en ayons pas honte. Dans le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, il dira au verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et l'Évangile est puissant parce que le Saint-Esprit en a inspiré toute l'Écriture. Replongeons en ces temps difficiles nos regards dans la parole de Dieu et permettons au Saint-Esprit de diriger nos vies et nos églises. Frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte à chacun d'entre nous. Prions. Cher Saint-Esprit, merci d'être présent dans nos vies. Nous désirons être revêtus constamment de ta présence. Seigneur mon Dieu, utilise-nous, tout comme les premiers disciples, afin que le monde découvre le vrai Dieu. Seigneur, remplis-nous de ta force. Nous voulons aller de l'avant, de victoire en victoire. Rempli de la force que nous communique ton Esprit Saint. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, qu'il soit plus que vainqueur avec toi. Amen.
Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Esprit, tu viens dans la louange, te demande. dans mes mains. J'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu. Qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses. Laisse toujours Saint-Esprit diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses. Qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger, qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger, qu'on te laisse toujours Saint-Esprit diriger.
Nous avons entendu Francine Picard nous interprétant au Saint-Esprit. Chers amis, notre culte dominical de Pentecôte se termine. J'ai été très heureux de le passer avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vivre encore un culte audio, en attendant de pouvoir nous réunir de nouveau dans nos communautés. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Maintenant, recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous garde. Rendez-vous dimanche prochain.